Fréquence Mistral.
On accueille aujourd'hui dans les studios de Fréquence Mistral Laurent Febvé. Laurent Febvé, c'est le taulier de l'humour marseillais. Il a fait plus de 4 spectacles sur Marseille et on aimerait dire que c'est un sniper de l'humour, mais c'est pas seulement un sniper, c'est un Kalachnikov de l'humour, capable de vous noyer sous un océan de rire et de blagues. Il est aujourd'hui dans nos studios pour nous parler de son nouveau spectacle, L'odeur du basilic. Bienvenue Laurent Febvé.
Salut les amis, ça va ou quoi ?
Ça va très bien et toi ?
Bah écoute, très bien. Je sais jamais dire salut, c'est très bizarre.
Non, il y avait une belle énergie.
Il y a un truc, on salue la tentative.
On sent que tu pouvais pas crier comme sur scène.
Bonsoir Marseille.
Bonsoir Marseille. Non Laurent, bah du coup, on va commencer par la question phare qu'on pose toujours aux humoristes qui passent ici. Mmh. Est-ce que tu peux nous raconter ta première scène de stand-up ?
Alors, vraiment stand-up, parce que j'en ai fait quand j'étais en colonie, je jouais dans des petits spectacles et tout. Mais
ça,
là...
ça compte comme du stand-up, hein, tu peux le raconter.
Ah ouais, bah alors, y en a une qui était très marrante. Je jouais le sapin de Noël dans une école privée parce que j'avais été mis là-bas parce que j'étais hyper turbulent. Et en fait, j'étais au premier rang et je devais jouer le sapin et ne pas bouger. J'étais dans un costume de sapin avec des vraies aiguilles. J'avais la tête qui sortait d'un rond là de sapin. Et j'étais au premier rang, et il y avait toutes les mamies qui étaient un petit peu coincées, qui me disaient « Oh là là, mais il arrête pas de boucher, non, mais je comprends pas, elle chuchotait, oh là là. » Et j'ai fini par tomber sur le premier rang, voilà, et ça c'était extraordinaire.
Ça avait l'air d'être folklorique en tout cas, dès le début, t'as commencé avec des débuts explosifs. Là aujourd'hui Laurent, donc, comme je dis, on t'accueille pour ton nouveau spectacle, tu es en train déjà de jouer au Garage Comedy Club, donc L'odeur du basilic, spectacle qui arrive après le succès du précédent, comme vous. Tu as tourné pendant combien de temps le précédent spectacle ?
À peu près 2 ans.
Donc 2 ans pour le précédent spectacle. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire et de faire ce nouveau spectacle ?
Eh bien écoute, en fait moi j'avais prévu de rien branler, de faire le même spectacle pendant 12 ans, jusqu'à épuisement, jusqu'à ce que les gens disent « Mais ta gueule, c'est de la merde, ça fait 500 fois qu'on entend les mêmes blagues !» Ah bon ? Et en fait mon agent m'a dit « Fais-le, sinon je te laisse tomber », donc j'ai dit « Ok ». Non. Non, oui, Stéphane Valeux, qui est un de mes meilleurs amis et mon agent aussi qui me suit dans toutes mes aventures, m'a poussé aussi à l'écrire, et il est vrai que j'étais assez, alors même si c'était un temps court, parce que 2 ans c'est court, mais j'étais assez d'accord avec lui, parce que je pense que, comme dit Booba, l'évolution c'est la survie, et pour moi en fait, des fois ce que j'ai écrit il y a 2 ans, déjà ça commence à me saouler quoi, même s'il y a des trucs que j'adore et que je joue encore en comedy club, notamment le sketch sur Grand Littoral par exemple, mais après j'aime évoluer, pour moi c'est un plaisir de pouvoir avoir un nouveau jouet et de jouer avec quoi.
Ouais. Et parce que bon, pour ceux qui ont vu ton spectacle et tes spectacles précédents, même pour avoir vu comme vous plusieurs fois, c'est un spectacle qui était quand même en perpétuelle évolution, puisque moi j'ai vu 3 fois le spectacle et je pense que 3 fois j'ai vu un spectacle à peu près différent quand même. Il y avait de la nouveauté ou des choses que je n'avais pas vues dans le précédent. Donc tu as quand même ce goût de chercher la nouveauté.
Exactement, parce qu'en fait déjà, dès que j'ai écrit un sketch, je me dis je peux faire mieux. Je me dis ça va pas. Ensuite, j'ai des idées en permanence et je touche du bois que l'univers m'apporte ça, parce que le jour où je l'aurai plus, voilà, ce sera pas cool. Mais là, par exemple, j'ai envie d'écrire un sketch sur les squatteurs qui se plaignent des conditions de squat, par exemple, ce genre de truc, ou la justice en général en France, etc. Ou des trucs délirants, quoi. Donc voilà, la dernière fois, j'ai entendu une femme qui s'est faite agresser. Elle a aspergé de lacrymo son agresseur. Et il s'est plaint parce que ça piquait les yeux, quoi. Donc ça, pour moi, c'est extraordinaire.
Ouais, t'aimes bien le quotidien et ce qui vient de l'actualité, ou en tout cas qui...
C'est de l'or massif.
Ouais,
c'est
pas souvent, la réalité, elle dépasse la fiction.
Mais complètement,
plus, donc, ouais.
Complètement, tu vois. Donc du coup, c'est pas dans le spectacle, mais du coup, je le rajoute en filigrane du spectacle, au début, à la fin, selon le temps que j'ai, quoi.
Ouais, parce que tu te dis, bon, là, je l'ai vu, il faut que j'en parle aujourd'hui, j'attendrai pas plus, quoi.
Ah oui, mais je dois expulser ça. Ouais. Ça doit sortir de mon organisme.
Ouais. Bah, effectivement, quand tu parles d'expulser ça, justement, je voulais pas poser une question là-dessus, parce que tu as quand même aussi, pour les auditeurs et auditrices, il faut le savoir, un grand succès sur les réseaux sociaux à côté de la scène. Et je me demandais justement, c'est quoi les vases communicants entre ces deux aspects-là ? Parce que sur les réseaux sociaux, tu es assez actif, tu viens souvent commenter l'actualité avec la gimmick maintenant très connue de « vous foutez notre gueule !» où tu viens justement soit faire apporter une critique, un regard ou quelque chose sur l'actualité. Comment ça, tu arrives à le transposer ensuite sur scène ? Comment tu arrives à en faire faire le lien ?
En fait, pour moi, ça me fait rire, mais c'est un peu comme, un univers complet, tu vois. En fait, c'est-à-dire que pour moi, les vidéos ne sont pas le spectacle, et le spectacle, ça n'est pas les vidéos. Déjà, c'est une manière de travailler qui est totalement différente. Les vidéos, il faut aller vite. Maintenant, ça va parce que je commence à avoir une petite notoriété, donc il y a des gens qui attendent et qui suivent, même si ma vidéo est longue. Mais au tout début, tu es sur un marché aux poissons, un marché tout court, et les clients passent et tu as une seconde pour les accrocher. Ils vont pas attendre de savoir ton développement, ta conclusion, ils en ont rien à foutre. Il y a des milliards d'autres personnes qui font des trucs bien meilleurs que toi ou qui font d'autres trucs qui peuvent attirer leur attention. Donc tu dois faire des choses différentes. Et c'est un peu les vases communicants. Je cherchais le terme, mais je l'ai perdu, mais ça va, je vais le retrouver. Et aussi le fait que l'actualité est éphémère. Si par exemple je te parle de la baignade de Anne Hidalgo dans la Seine.
La Seine, ouais.
Là, à l'heure où je te parle, c'est déjà has-been, c'était un mois.
Oui.
On n'est plus en 2000,
oui.
Où l'actu, elle est dans le magazine du matin que tu vas prendre au café ou dans le métro. L'actu, elle est bam, 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 tu vois.
Ouais, il n'y a plus de secondes. C'est l'actu d'hier est déjà périmée.
Donc, du coup, tu vas faire ça dans 2-3 mois. Les gens vont dire, mais de quoi ils parlent? On le sait déjà, tu vois, on s'en fout, quoi. Tu vois.
Donc, il faut vraiment être à la seconde et suivre l'actualité et de suite réagir, écrire.
Voilà, mais... La sine qua non, excuse-moi, c'est que oui, il faut savoir ce qui fonctionne, mais il faut surtout le faire avec le cœur et avec honnêteté. Mmh. Si tu parles d'un sujet qui ne t'intéresse pas ou si tu parles d'un sujet en faisant semblant d'aller dans le sens du vent, etc., les gens le savent, les gens ne te suivront pas. Si tu n'es pas sincère et que tu es malhonnête, tu fais ça pour le buzz, ça ne peut pas marcher. Voilà, ça c'est pour moi la sine qua non.
Ce serait le conseil que tu donnerais en tout cas à toutes les personnes qui commencent sur les réseaux, j'imagine.
Oui, qui vont peut-être faire le buzz. S'ils le font comme ça, ils vont faire le buzz un certain temps, mais ça va s'effondrer extrêmement vite.
Et sur la scène justement, donc là tu viens d'expliquer comment tu travailles pour ces vidéos sur les réseaux qui font un carton, mais sur la scène, comment tu travailles, c'est quoi ta routine de travail, ben, notamment pour ce spectacle qui vient d'arriver, comment tu l'as travaillé?
Eh ben, je vais dire un truc magnifique qui va complètement vous émouvoir, et peut-être il y a des gens qui vont pleurer, qui vont, ils vont rentrer chez eux, ils vont écouter When I was young, I never needed it, dans le noir.
J'étais sûr que t'allais chanter à un moment.
Les lunettes de soleil. Je vis.
Okay.
C'est simple, putain, c'est beau ce que je viens de dire.
C'était profond.
Non, mais c'est-à-dire que tu vis, tu prends des notes vocales, tu vas dans la rue. La dernière fois, je suis dans la rue. Exemple d'il y a un jour. Je vois deux mecs en train de s'embrouiller. Bon, classique à Marseille, c'est tous les jours pour les voitures. Il y a un mec qui garde sur une place famille, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des places famille. Toutes les familles. Le mec sort, et il y a un mec qui dit Ah, tu passes sur une place famille, pourquoi tu te gardes sur une place famille? L'autre gars dit je suis désolé, mais t'es un handicapé mental, pas garde sur une place handicapée, alors ferme-la.
Ça, c'est magnifique. C'est le genre de choses qu'on peut voir ici à Marseille.
C'est des génies. Ah ouais. Ce sont des génies. T'es obligé de noter ça.
Ouais,
tu peux pas.
Ouais, c'est vrai que là, ça, même si tu le dis rien, tu es obligé de rigoler.
Mais c'est
de...
hilarant. Ouais. Donc, tu vois, et pour moi, c'est ça. C'est la vie. Et puis, t'évolues en tant qu'homme aussi. Tu peux penser des choses il y a 5 ans et puis évoluer aujourd'hui. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. La société, elle change, elle évolue. Il y a plein de choses. C'est hyper intéressant, je trouve. Mais il faut être à la page.
Et tu écris ou c'est plutôt justement il y a un tout venant que tu essaies ensuite de mettre, de retranscrire sur scène derrière? Ou c'est quelque chose qui est écrit à la ligne près? Comment tu travailles?
Alors, sur scène, en fait, la difficulté principale que j'ai, c'est pas pour trouver des blagues, parce qu'en soi, sans prétention, j'y arrive. C'est en fait arriver à cadrer ce que je veux dire aux gens. Parce que tu vois, j'ai un véritable toc qui me vient de ma passion pour le cinéma. C'est en fait, et je prends souvent l'exemple des films d'épouvante de qualité, qui sont très rares, c'est pour ça que je précise. C'est-à-dire qu'un film qui fait peur, un film qui fonctionne, c'est un film où, dans la grande majorité du temps, chose assez rare, les personnages prennent des décisions que tu pourrais prendre dans la vraie vie. À ce moment-là, tu te sens impliqué, et si tu te sens impliqué, Tu
te mets en empathie.
Exactement. Je prends un autre exemple. Film d'action, par exemple. Le mec vient de voir sa mère tuée par un tueur en série. Et un quart d'heure après, le mec lui dit « Ça va, ouais, ça va aller. » Qui fait ça? Qui? Personne. Tu vois? Si tu me fais une ellipse, comme dans les films genre L'Arme Fatale, qui est un exemple pour moi de film à la fois divertissant et amusant et profond, où t'as Mel Gibson, sa femme, elle meurt, et tu le vois, il est au bord du suicide pendant des mois... Il est à deux doigts de se mettre une balle dans la tête. Là, j'y crois. Là, je suis impliqué. Là, je suis en empathie. Et dans le spectacle, c'est pareil. Si je faisais que des blagues, et c'est très respectable, j'aurais pas de problème. Je ferais que des blagues qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucun lien les unes avec les autres. Mais moi, j'aime bien raconter des histoires. Et quel est ton propos? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu passes de ça à ça? Et ça, c'est ma pire torture mentale. Tu vois, en fait, dans le spectacle.
Ouais, c'est d'arriver à mettre du sens et du lien pour que les gens derrière ils puissent accrocher et s'amarrer à ce que tu racontes. Ouais, je comprends.
Après, les descriptions marrantes et les vannes, c'est pour moi, c'est la récréation.
Ben, c'est pour ça que j'ai tendance à t'appeler la calage du stand-up à Marseille, parce qu'effectivement, tu as tendance à mitrailler les gens et on le voit souvent quand on te voit sur scène, moi pour t'avoir vu plusieurs fois. C'est que les gens, en fait, souvent, ils sont presque incapable de respirer tellement on t'envoie de la vanne, la vanne, la vanne, jusqu'au moment où il y a la dernière vanne où tu vas leur laisser un demi quart de seconde où ils vont exploser de rire et applaudir, mais c'est un rythme en fait toi, il y a une idée de vanne, mais il y a aussi une idée de rythme qui est très importante dans ta manière de jouer, et en fait qui cadre bien avec Marseille, parce que Marseille, c'est aussi une ville qui est comme ça, très dynamique, bam, 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 bam. Mais je pense que tu t'es mis en, comment on dit, tu t'es calé sur le rythme de la ville, quoi.
Exactement, exactement. J'ai failli te chercher le mot, mais je le trouvais pas non plus. Mais c'est pas grave.
Mais c'est vrai que si tu veux parler de ton univers, parce que j'ai présenté un petit peu, si toi tu peux expliquer ce que c'est que ton univers, moi je suis curieux de voir comment tu décrirais ton univers stand-up, ou en tout cas ce que tu fais sur scène.
En fait, j'aurais tendance à dire, alors ça fait hyper bouffon ce que je vais dire, mais c'est sans prétention, je suis un enfant des inconnus, quoi. Moi, ma première vraiment, alors au-delà de mon grand-père qui me faisait déjà écouter des sketchs sur des vinyles, tu vois, et qui me faisait des blagues, moi c'était hilarant. Monsieur et Madame Bambois ont un fils, comment il s'appelle, Jean Bambois, mais moi des heures de rire avec ça.
c'était parti pour
des je me tape la tête sur le carrelage. Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, tout ce qui est imitation de l'extérieur, donc ça c'est la première étape, imitation des profs, imitation de l'ordre établi, les parents, les profs quand t'es gamin et tout. Et les inconnus, ça a été pour moi la révélation de l'insolence, de remettre en question l'ordre établi et de se regarder dans un miroir. Moi et nous tous. Mmh. Tous autant qu'on est. Quelle que soit notre origine, notre religion, notre race, notre travail, etc. Avec nos paradoxes, nos contradictions, etc. Et en fait, je pense que mon humour se nourrit de ça. C'est-à-dire que je peux te faire des blagues basiques sur « Oui, pourquoi quand on va faire l'essence, on s'amuse tous à faire en sorte de d'arrêter le chiffre bien sur zéro ?» Ou « Pourquoi est-ce que quand on cherche une rue, on baisse la musique alors que ça n'a aucun rapport ?» Tu vois ? Ok. Mais moi, je préfère faire des blagues sur, par exemple, je sais pas moi, les gens qui te disent « Oui, il faut mettre des sous de côté » et la déconnexion entre ce que disent ces gens-là et le réel. De quel sous de côté tu parles ? Ouais. La majorité des Français, c'est les dettes qui les mettent de côté.
Ceux de côté qu'ils mettent, c'est les pièces sur le truc de la boulangerie pour payer.
Tu vois, et c'est ça, moi, que j'adore. C'est l'absurdité, la remise en question permanente. Ou des idées qui sont même pas drôles à la base. Tu fais un bac plus 5 et tu te retrouves à faire cuire des potatoes chez McDo. Pour moi, c'est dramatiquement drôle. Et parce que moi, ça, comme beaucoup de Français, et encore une fois, je suis pas malheureux, je l'ai subi, comme beaucoup de gens, maintenant que je suis privilégié, j'éprouve le besoin d'en parler et de cracher cette vérité-là et de dire, mais attendez, vous planez complètement, en fait, tu vois. Donc voilà, c'est un peu... Et il se trouve que ça fait rire les gens parce que ça leur parle, tu vois.
Oui, et c'est vrai que j'en ai pas parlé aussi dans ta présentation, mais tu viens des quartiers nord, donc quartier plutôt populaire, donc t'as quand même ce lien avec les quartiers populaires et les entre guillemets classes populaires, où tu gardes ce double regard sur justement ce qui se passe en France le réel, quoi.
Constamment, puisque j'y suis au bas mot, allez, 2-3 fois par semaine.
Ouais.
Et entre ce que tu vois, la télé je la regarde pas, mais ce que tu vois dans les médias et le réel, mais c'est sliders, les mondes parallèles.
Ouais, ouais, surtout dans les quartiers nord, où c'est là pour... On est dans une autre dimension aussi, quand même.
Écoute, j'ai une anecdote drôle. Il y a un casino, peut-être les gens qui vont là-bas, ils se reconnaîtront. Il y a un casino qui s'appelle Petit Casino. Je ne sais pas si on peut dire le nom des marques, sinon je dis Flamby.
Non, tu peux.
Flamby Action, voilà, c'est bon, on a 3 marques. Petit Casino des Rosiers, et c'est vraiment devenu la cour des miracles. C'est-à-dire que c'est la zone totale et tout, etc. La dernière fois, j'étais avec mon meilleur pote et sa mère nous a demandé de prendre un truc. On passe et il y a un mec avec une longue gabardine. Il passe au rayon jambon, viande et tout. Il voit 2 beefsteaks. Il était visiblement éméché. Il voit 2 beefsteaks. Il prend les 2 beefsteaks. Il regarde le prix. Il fait « Quoi ? 14 euros ?» Alors, t'as fait au revoir. Il le met dans sa poche. Il part avec.
C'est normal. C'est normal. C'est normal. Marrant.
Il a dit « Eh lui, non, 14 euros
?» C'est gratuit du coup.
c'est trop drôle.
C'est vrai que les Marseillais, c'est des spectacles vivants. C'est vrai que pour être drôle à Marseille, c'est faut être très très drôle d'ailleurs.
Tout le monde est drôle.
C'est Gad Elmaleh qui disait ça. Il disait chez les Marocains, tout le monde est drôle. Donc quand t'es drôle, t'as intérêt d'être très très drôle. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a beaucoup d'humoristes marocains parce qu'il dit chez les Marocains, tout le monde rigole. Et chez les Marseillais, je pense que c'est un peu la même chose.
Bien sûr.
C'est le même format, c'est que tout le monde est drôle à Marseille. Donc si tu veux être l'humoriste des Marseillais, faut vraiment être.
Il faut décrire. Moi j'aime beaucoup les descriptions. Si tu parlais des punchlines, j'aime beaucoup les descriptions. Comment est le personnage? Qu'est-ce que tu vois, exagéré.
La comparaison après, trouver des métaphores, tout ça.
Comme dans l'arabe, j'adore les images mentales, j'aime beaucoup.
Mais justement, ce spectacle, comme j'ai dit, c'est ton 4e spectacle, puisque t'as déjà 4,5 spectacles derrière. Mais donc, est-ce que ce spectacle, Laurent Fébé, ce serait pas un petit peu le spectacle de la maturité? Je rêvais de poser cette question.
Complètement, si tu veux, c'est un spectacle où, j'essaie d'expliquer un petit peu aux gens qu'il faut prendre en maturité, il faut arrêter les conneries, faut arrêter les jeux vidéo, les baggies, le rap, c'est fini, c'est pour les bébés, ça. Hein. Maintenant, il faut mettre des Geox, des pantalons dessus du nombril.
C'est comme ça que tu vois la maturité. De ça nous donne aussi une info sur toi.
Fumer la pipe et... Non, pas du tout. Non, au contraire, c'est le spectacle de l'immaturité, ouais. C'est vrai que cette question-là, elle est supportable.
C'est quand j'ai vu Catherine spectacle, je me dis, c'est le seul avec qui je peux faire cette
complètement,
question.
Complètement, c'est un spectacle de 8 heures en 12 becs, pour être hyper mature, quoi, qui parle de la dualicité, ça veut rien dire.
Mais sans rigoler, c'est vrai que maintenant que je le dis, peut-être que le fait que tu pratiques le stand-up depuis longtemps, toi, ça te permet peut-être de garder l'esprit jeune, puisque tu restes quand même dans cette espèce de vivacité qui est propre à la jeunesse, souvent, de réfléchir vite, d'être rapide, de ne pas traîner. Il y a peut-être ce truc-là.
C'est-à-dire qu'au niveau de tout ce qui est calcul mental, je suis obligé de reconnaître que ça va mieux. C'est-à-dire que maintenant, j'arrive à aller chercher une compote tout seul.
Non, mais évidemment. Mais moi, je parle d'un principe. Je t'ai dit, je suis un fan de rap. Fan aussi de rock, de pop rock et tout. Mais le rap, ça a vraiment été un truc qui m'a beaucoup apporté. Et le rap, c'est bam, bam, bam. Tu vois, la rapidité d'esprit. Je te donne un exemple. Vraie histoire. Semaine dernière, il y a un mec qui cherchait à me clasher parce que j'avais un pantalon un peu large, tu sais. Maintenant, ça se fait, ces pantalons un peu latino, un peu large et tout. Mm. Il arrête pas, mais on se connaît pas. Si on se connaît, je m'en fous, je te tacle. Et je voyais que c'était pour tacler, tu vois. Et il me dit, putain, il est ton pantalon, il est large ton pantalon. Je dis, oui, c'est pour que ta mère me l'enlève plus vite. Tu vois. Et ça, j'adore, tu vois. Pour moi, c'est comme une prise de judo.
Oui, oui, mais c'est vocal. Ça,
tu vois. Et là, derrière, évidemment, tu as beau avoir. Il y a même des mecs de 50 plus. Son amnéro, qu'est-ce qu'il a dit. Et moi, j'adore ce genre de truc. Ce travail-là, c'est un truc que j'adore. Et en effet, et après, pour répondre à ta question plus sérieusement, il est vrai que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui. En fait, je suis ce que j'ai toujours été, avec la maturité et l'expérience en plus. Mais à côté de ça. Si tu veux, garder l'esprit jeune, oui, dans le stand-up aussi, parce que je suis artiste. Mais il y a un truc qui est très marrant. C'est que tout ce que je faisais avant, je te donne des exemples qui pourraient être considérés par certains esprits étroits comme truc de gamin. Bon, j'en parlais tout à l'heure en rigolant. Écouter du rap, jouer aux jeux vidéo, traîner le soir, collectionner des figurines Tortue Ninja, lire des mangas, etc. Avant que j'aie une petite notoriété, si t'as pas de petite notoriété et que t'es au RSA, c'est pas péjoratif, hein, attention.
Ouais, je comprends ce
que t'es caissier chez Leroy Merlin, ah non, mais c'est un gamin, non, mais le mec, c'est un vrai bébé. Par contre, quand t'as une notoriété et que tu gagnes bien ta vie, ah non, mais j'adore ce mec, il respecte pas les règles.
Ah, t'es non conventionnel. Là où juste avant, t'es hors système, mais t'es pas adapté. Donc, ouais, effectivement, je comprends très bien. C'est vrai que c'est intéressant.
Voilà, j'en parlais avec un DJ très connu, 50 piges, il s'habille en rappeur et tout, ça lui va très bien. On rigolait, je dis parce que t'as conscience que si t'étais pas toi, les gens diraient, non, mais c'est quoi ce mec, 50 piges, non, mais c'est quoi, c'est un vrai bébé.
Le vieux beau.
Ouais, le vieux beau, le bof, le malaisant. Non, mais c'est hallucinant quand même, tu vois.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais y a, le succès permet de mettre d'autres mots là où la société, elle en aurait mis sans succès.
Ouais. Et puis, je crois que quand t'es artiste, t'en as rien à foutre. Tu prends Prince, le mec, il se trimbalait en. Le Prince, il se trimbalait en talonnette avec des chemises à jabot et compagnie et des pantalons violets.
Ah oui, c'est ça. Mais si, bon, après, à Marseille, on a quand même pas mal de Prince en puissance qui se baladent sans
maintenant,
être connu. Ouais. Oui,
mais lui, il le faisait dans les années 80.
C'est vrai, avant que ça soit à la mode.
Tu vois ouais, mais maintenant, tu vas au Courjou, il n'y a que ça. Mais sans les talents vocaux. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire ou pas.
Voilà. Alors, Laurent, c'est vrai que toi, tu organises également une scène chaque lundi à Place des Canailles, donc au Doc. Et c'est vrai que t'as quand même à cœur de mettre des jeunes artistes en avant parce qu'on pour y avoir joué, mais aussi pour avoir vu beaucoup de jeunes artistes faire leur début ou faire leur première scène ou dans les 10 premières scènes à la Place des Canailles, t'as quand même cette appétence à transmettre et t'as quand même dans le milieu cette réputation d'être quand même très bienveillant avec les plus jeunes. Qu'est-ce que c'est quelque chose que t'as à cœur de transmettre justement dans le milieu?
C'est-à-dire que moi je sélectionne sur photo des femmes entre 25 et 26 ans. C'est beaucoup surtout sur les tout ce qui est
on va pas réussir à aller au bout de cette interview.
Mensuration, tout ça. Et là, si c'est pas drôle, je la pousse en avant. Avec les deux mains, comme ça. Non, c'est pas vrai. Non. Mais non, mais pour moi, je me suis même pas posé la question. C'est-à-dire que là où j'ai mon comedy club, avant, c'était plus ou moins des terrains vagues. Je te parle de ça il y a plus de 20 ans en arrière. Où j'allais dans des épiceries rebeux acheter des canettes de Fanta ou des sucettes, des trucs comme ça. Et on traînait en VTT avec mes potes. Mmh. Et on traînait notre ennui et notre flemme. Donc, quand nos parents me disaient « Maintenant, vous arrêtez la console, vous allez jouer dehors. » Aujourd'hui, je vais là-bas et je remercie toute l'équipe des Canailles. Je suis directeur artistique du Comedy Club des Canailles dans un lieu où avant, je faisais du VTT tout seul.
Ouais, c'est...
Donc, évidemment que, déjà, j'en ai conscience. Et deux, quand tu as des jeunes artistes qui se présentent, Mais moi, et c'est évident. En fait, c'est les gens qui m'ont dit t'es bien, bien. Bon, je ne me suis pas dit je suis bien, bien. Je me suis dit je suis normal. Après, ça ne m'empêche pas d'être dur. Moi, le mec, je vois qu'il n'écoute pas ce que tu lui dis. Il est constamment en retard. Ça ne l'intéresse pas. J'ai frérot, stop. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien. Je vais t'envoyer au casse-pipe, tu ne vas pas y arriver. Pour moi, quelqu'un qui arrive à monter sur scène et à gagner de l'argent en montant sur scène, alors qu'il y a des gens, pour gagner la même somme, qui vont devoir faire un rond-point, qui vont devoir trier des tringles chez Gémeaux, etc., etc., et qui est là, je suis fatigué, je me sens pas bien, j'ai pris un bide, c'est trop dur, la vie c'est dur, rentre chez toi. Rentre chez toi. Voilà, donc à part ça, mais même ça, c'est de la sévérité bienveillante, si je peux dire
tant que la personne elle a envie, tu vas pousser
évidemment.
Ouais, bien sûr.
Tu vois, et moi si je peux éviter d'avoir vécu certains trucs que j'ai vécu et que je puisse rendre l'appareil des gens qui sont comportés comme ça envers moi, avec grand plaisir.
Je sais que moi, pour me souvenir, quand je suis arrivé sur Marseille, on avait eu une discussion et tu m'avais donné un conseil que j'ai gardé, que je donne souvent aux gens. C'est que tu m'avais dit, dans le stand-up, on peut avoir deux facettes de soi qui se révèlent et qui se nourrissent. Il y a celle qui peut être très bienveillante, d'aide de l'autre, de soutien, d'être heureux pour l'autre lorsqu'il a un succès. Et il y a aussi le côté plus sombre d'être jaloux, d'envier l'autre et de commencer à médire sur les autres, de parler dans le dos. Et tu m'avais dit, il faut vraiment tout faire pour se battre contre la partie obscure. Tu m'avais même dit, citer Star Wars, on t'a dit, bat-toi contre le côté obscur, parce qu'il faut nourrir ce côté positif. Et c'est vrai que c'est quelque chose de dur dans le monde artistique, parce qu'on a tous besoin d'exister, on a tous envie d'exister, mais le but d'exister, c'est pas d'écraser les autres. Et je sais que c'est un conseil que tu avais donné, que je transmets, et que je pense qu'il était judicieux.
Mais si je peux me permettre de rebondir là-dessus, si tu
veux. Bien sûr, bah oui, on a le temps.
C'est très important pour une raison simple, c'est-à-dire que tous les challenges de la vie, un humain, femme ou homme, quel qu'il soit, va avoir des challenges. Exemple, tu es une belle femme, tu travailles dans un métier de bureau, tout ce que tu vas avoir, il y a des gens qui vont dire « Non, mais parce qu'elle est belle. Non, mais hey, les diplômes, elle n'a pas Ken avec lui, elle n'a pas. Tu es moche ? Oh là là, elle est moche. Oh là là, heureusement qu'elle travaille dans un bureau. » Tout ce que tu vas être en tant qu'être humain, tu vas être gros, tu vas t'en prendre plein la gueule. Tu vas être mec, tu vas t'en prendre plein la gueule. Tu veux sortir avec des meufs, tu n'auras pas accès à des meufs. Tu veux le mec qui te plaît, tu n'auras pas le mec qui te plaît. Donc, il faut aller le chercher. Et pour aller le chercher, il faut être capable de prendre des coups. C'est-à-dire que, en fait, les gens qui pensent que la vie, c'est une safe place, alors c'est très bien, attention, hein, de faire en sorte que, évidemment, qu'il n'y ait pas de harcèlement et de rendre le monde plus juste, évidemment. Mais la vie, elle s'en fout complètement de ton avis. Y a des gens qui sont malveillants, qui eux-mêmes ont été, je vais utiliser un terme qui n'existe pas, mais malveillés, si tu vois ce que je veux dire.
Je comprends, ouais.
Voilà, et qui vont t'en mettre plein la gueule. À partir de ce principe-là, tu veux quelque chose, tu vas le chercher. Je te donne un exemple, t'es un mec de 20 ans qui comprend rien aux meufs. T'as deux possibilités. Soit tu dis, ouais, les meufs, de toute façon, c'est tout des billages. Ouais, elles comprennent rien, elles préfèrent sortir avec des cassos. Et là, tu vas direct vers le côté obscur, c'est le plus rapide. Soit tu dis, ok, ça marche pas parce que certainement je ne fais pas les choses comme il faut. Pourquoi lui là-bas, ça marche? Parce que lui, il sait y faire. Et pour ça, il faut mettre son ego de côté et accepter aussi que tu vas t'en prendre plein la gueule. La première fois que tu vas aller parler avec une fille, en soirée ou peu importe, tu as peut-être un vent, deux vents, trois vents, quatre vents, cinq vents, dix vents. Il va arriver un certain moment où ça va fonctionner. La différence fondamentale qu'il y a aujourd'hui, qui peut être plus difficile avec notre métier à nous, parfois, ça peut être un, les algorithmes, parce que tu peux avoir quelqu'un qui fait du très bon contenu et qui ne va pas forcément être mis en avant par les algorithmes, à contrario de certaines personnes. Parce que ça, tu sais, c'est un fourre-tout. Il y a tellement de gens qui regardent les réseaux. De tout temps, il y a des gens qui ont aimé des trucs de mauvaise qualité. Voilà, il y a des gens, ils ont été passionnés par du caca. Bon, bref, c'est comme ça, qu'est-ce que tu dis? Donc, si tu veux, des fois, tu peux avoir ce truc de dire « Ouais, mais je comprends pas, je fais des bons trucs, l'algorithme me met pas en avant. » Non, là, ça, c'est un peu injuste. Mais sinon, tout le reste, en règle générale, tu peux aller le chercher, mais il faut te remettre en question tout le temps et accepter que tu vas échouer 10 fois, 20 fois, 30 fois.
Ouais, bien sûr.
Mais ça, c'est un chemin difficile.
Non, mais même si tu échoues, en fait, ça fait partie du parcours. Et se réjouir pour son ami à côté ou son coloc, moi, je connais, mais se réjouir pour celui qui est à côté, c'est vraiment... Il faut des fois travailler sur soi parce que c'est normal. L'envie, on la ressent tous. Évidemment. Des fois, les points de jalousie, ça arrive à tout le monde. Mais c'est quand même d'essayer sincèrement de se dire, bah, c'est tant mieux pour lui. C'est son tour. Un jour, ça sera le mien et c'est tout. Mais
bien sûr,
c'est quelque chose que j'essaie de garder, en tout cas,
à l'esprit personnel. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Et ce, juste pour terminer, ce même quand des fois, tu peux avoir des trucs où... Mettons, je dis une bêtise, tu vas voir ton pote qui va faire une émission et toi, même si ce que tu fais c'est de la qualité, personne t'appelle pour cette émission pour une raison X ou Y, parce que tu viens de telle ville, parce que c'est parce que là. Il faut arriver, même s'il y a des jours où on est mal luné, on est fatigué, on est énervé, à se dire c'est pas grave.
Ouais.
Parce que de toute façon, j'arriverai à ouvrir les portes quoi qu'il arrive. Et même le jour où cette personne revient vers toi, je parle de la personne qui t'a pas ouvert l'émission, se dire que très probablement il y avait rien de personnel, que c'est juste que peut-être qu'il connaissait pas, que voilà, il faut apaiser son âme, je pense. Tu vois.
Essayer de pas nourrir l'ego trop fort.
Mais on est des compétiteurs.
Ouais, c'est normal. Il y a aussi ça, donc c'est un mélange de deux choses qui est difficile à gérer.
Évidemment.
Laurent, du coup, pour celles et ceux qui aimeraient te voir en spectacle, comment ils font pour te suivre, comment ils font pour te retrouver, un petit tour de promo.
Bien écoute, j'ai envie de te dire que il y a un tueur en série célèbre qui m'avait menacé, qui m'avait dit pour te retrouver, pour te suivre. Il réussit à se débrouiller, donc arrêtez d'avoir une paresse mentale. Vous voulez me suivre? Vous allez derrière les buissons au cours du c'est évidemment mes réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram, donc Laurent Febvay, Febvay, TikTok, Instagram, Facebook aussi. YouTube,
donc c'est là où on te retrouve et c'est là où on va te revoir.
Exactement.
Très bien. Bah, donc la prochaine date pour ton spectacle, ça sera quand?
Le 5 septembre à Troyes, et après je pars en tournée en Bretagne. Ah, et okay. Après il y a des dates de partout. Il y a Sifour-les-Plages, il y a Grenoble entre autres, Nantes. Enfin bref.
Donc
ça...
là c'est une tournée nationale. Là.
Oui. Après en octobre je suis au Palais des Glaces.
Ah. Voilà. À Paris.
Ouais.
Ah oui, donc là ça y est, c'est la grande
ville. Non, à Gémeaux, tu sais, au rayon miroir.
Bah, les gars, bonjour. Sifour-les-Plages, juste derrière le bar PMU.
Non, je suis à Sifour tout court, Sifour à Darty, au rayon micro-ondes. Il y a Sifour.
Après, des glaces, c'est combien de places?
90, je crois.
Ah ouais, donc c'est une belle salle. Ça sera régulier ou
Alors là, c'est une fois par mois, et okay. Si tout va bien, après, c'est une fois par semaine.
Ok, donc on est en train de perdre un talent marseillais à Paris, du coup?
Non, jamais de la vie, parce que j'adore Paris et je salue les Parisiens, mais on a le train aujourd'hui, on a l'Ouigo. Pourquoi se priver pour seulement 2 700 € de faire 3 heures de...
Donc tu resteras à Marseillais, mais tu feras des allers-retours. Bah,
attends, un super train où il n'y a pas d'eau, les toilettes sont ignobles, on se régale. Régale.
En plus, ça te donne de l'inspiration, on sait que tu as un sketch assez nourri sur l'Ouigo.
Les enfants
les
sauvages.
Enfants, ouais. Sauvages, ouais. Démoniaques, ouais. Bon ben Laurent, c'était un plaisir de te recevoir dans les studios de Fréquence Mistral. Merci de nous avoir consacré ton temps.
Très partagé, tu rigoles, c'est un plaisir, là c'est les vacances. Là.
Ah ben, c'était un plaisir et on donnera les informations sur le podcast en dessous pour te retrouver sur les réseaux et merci d'être venu.
Par contre, tu m'as dit qu'on parlerait un petit peu du fait que la Terre était plate et je suis un petit peu déçu parce que t'as l'air un petit peu de...
Effectivement.
Un petit côté lâche.
Je sais que t'avais beaucoup de sujets sur les vaccins et sur le 11 septembre également, oui. Mais on essaiera de faire
ça. Parce que si on regarde bien l'explosion, Dion, c'est parce que l'explosion, parce qu'on n'en parle pas assez, mais l'explosion
merci à toi, Laurent.
Ne coupez pas, ne coupez pas.
Merci à toi, Laurent.